Accent d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Bonjour, fermeture des écoles, voire des frontières. Pays après pays, l'Europe se met à l'arrêt. L'objectif, ralentir la progression du Covid-19. Après l'Italie et la République tchèque, mais aussi la Hongrie, le Danemark, la Grèce ou la Roumanie, pour n'en citer que quelques-uns, la France a donc elle aussi décidé de fermer toutes ses écoles et universités pour un mois au moins. La Slovaquie, elle a carrément fermé ses frontières et la Bulgarie déclaré l'état d'urgence. Éric Sénanque, bonjour.
Bonjour Léa-Lisa.
Vous êtes notre correspondant à Rome. Rome qui vit depuis lundi avec des mesures drastiques de confinement généralisé et avec une trentaine de journalistes français qui travaillent en Italie. Vous avez co-signé un texte à l'attention des autorités françaises et européennes, une tribune dans laquelle vous les appelez à prendre enfin la mesure du danger face à la progression rapide du coronavirus. Pourquoi vous avez ressenti le besoin de lancer cet appel ?
Eh bien, on a voulu dire qu'avec ce coronavirus, on ne pouvait plus attendre, on ne pouvait plus faire comme si c'était quelque chose qui ne soit pas si grave. En Italie, je vous rappelle, on a dépassé les 1000 décès, le système de soins pourtant très bon dans le nord du pays est débordé. Ce texte avait aussi pour ambition de répondre à la parole publique. Il y a deux jours, la porte-parole du gouvernement français, Sibeth Ndiaye, avait tenu une conférence de presse où elle expliquait qu'en gros, la France saurait faire mieux que son voisin, que les contrôles de température aux aéroports n'avaient pas permis de freiner la propagation du virus. Et cette prise de position officielle française est très mal passée ici. Elle a été vécue comme très condescendante en Italie, alors que le pays, on le sait, fait le maximum pour contenir la pandémie. Alors le président Macron a évoqué hier les gestes barrières qui permettent de réduire la contagion. C'est une bonne chose. Mais ces gestes, cela fait deux semaines que les Italiens se sont disciplinés à les effectuer. Un mètre de distance, pas de poignée de main, etc. Et c'est cela qu'on a voulu rappeler dans la tribune. Il est temps de faire attention. L'heure n'est plus de faire la fête, de se réjouir par exemple entre supporters de foot au pied d'un stade où un match s'est pourtant joué quelques minutes avant à huis clos. Ici, en Italie, le mot d'ordre, c'est « on fera la fête plus tard » et pourtant, on est dans un pays de latin et tout le monde s'y plie. Il est temps aussi qu'en France, on soit plus raisonnable car la maladie progresse vite et on l'a vu, ne touche plus uniquement que des personnes âgées.
Merci Éric Sénanque. Les élections municipales, par contre, qui doivent se tenir dimanche en France, ne seront pas annulées pour cause de coronavirus. Et parmi les enjeux de ce scrutin dans les villes, la gestion, voire la fermeture des sites industriels. Exemple avec les centrales nucléaires, après la catastrophe de Fukushima en 2011 au Japon, la pression des citoyens se fait plus forte. À Fessenheim, la première ville à avoir accueilli une centrale nucléaire en France en 78, c'est désormais acté, le site va fermer. Un premier réacteur a été éteint le 22 février dernier, le deuxième ce sera le 30 juin et la fermeture des 12 autres réacteurs suivra d'ici 2035. Pour la ville de Fessenheim en Alsace, c'est donc toute une page qui se tourne, le reportage de Robin Dussen.
Restaurant Bonfrère, bonjour.
Avec ses deux grands dômes blancs, le village de Fessenheim, 2400 habitants, est connu dans toute la France. Le long du Rhin, entre Colmar et Mulhouse, il abrite la doyenne des centrales nucléaires françaises.
Je suis né ici, j'ai commencé à avoir l'agrandissement de la centrale nucléaire.
Laurent Schwein, le patron du restaurant au Bonfrère.
Dans les années 70, quand il y avait le commencement des bâtiments, on était là et puis mes parents étaient déjà sur le restaurant.
Mise en service en 1978, la centrale de Fessenheim était prévue pour durer 30 ans, sauf que sa durée d'exploitation a été prolongée par l'État français à plusieurs reprises, sans confirmer la date de l'arrêt définitif des deux réacteurs et sans en avertir la population. Pour Laurent Schwein, tout ça rend la transition plus difficile aujourd'hui.
On aurait pu se préparer et puis on aurait pu regarder autour, mais là ça a été chaque fois repoussé d'une année.
Ancienne enseignante à Fessenheim, Nicole Bergeret habite un village voisin depuis 33 ans.
C'est important, le nucléaire, je pense. Mais il faut aussi être vigilant. On sait qu'on est dans une région sismique et tout ça, mais il ne faut pas non plus faire tout de suite dire « Ah, voilà, elle est vieille, c'est fini, on l'a détruit. »
La vétusté, c'était l'axe d'attaque principal des antinucléaires pour exiger la fermeture du site. Un argument renforcé après la catastrophe de Fukushima en 2011, mais qui n'a pas lieu d'être selon Vincent Ruche, délégué syndical de la CFDT.
Pourquoi fermer un outil tel que le nôtre ? Qui a prouvé et qui continue de prouver qu'il est performant, qui sait produire en toute sûreté, qui est reconnu par l'autorité de sûreté nucléaire pour être parmi les meilleurs sites du parc français. Donc voilà, une décision électoraliste purement politique, on ne la comprend pas.
Au fil des années, la centrale nucléaire de Fessenheim était devenue un symbole. La première étape d'une transition énergétique qui diminuerait la part de l'atome dans l'électricité produite en France de 72 à 50% d'ici 2035. En 2012, le candidat François Hollande s'est engagé à fermer Fessenheim pour fin 2016. En vain. 6 ans plus tard, le président Emmanuel Macron décide de maintenir la promesse faite par son prédécesseur. Un argument inaudible pour les salariés comme Vincent qui ont toujours travaillé à Fessenheim.
On a eu des productions historiques ces dernières années. On est là, on est sur le réseau. On fait partie d'une industrie qui actuellement est capable de produire en masse de l'énergie décarbonée. Or actuellement, on se rend bien compte que il y a un enjeu environnemental qui est le réchauffement climatique avec les rejets de CO2. Un gouvernement à la fois qui veut verdir un peu son image, ce qui est le cas avec le président Macron actuel, et qui va priver la planète de 1800 mégawatts d'énergie décarbonée. Oui, c'est un véritable gâchis, un scandale.
En charge du dossier post-Fessenheim depuis son élection en 2014, le maire Claude Brender fait désormais tout son possible pour que son village reste attractif.
Il va y avoir un renouvellement qu'il va falloir assurer. Et donc c'est pour ça qu'on doit rester attractif, c'est pour ça qu'on doit maintenir nos services à la population, c'est pour ça qu'on doit garder nos commerces, c'est pour ça qu'on doit garder les choses aussi essentielles que le périscolaire.
Selon le maire, entre 300 et 500 personnes devraient quitter la commune suite à la fermeture du site, mais il veut tout faire pour éviter que sa ville ne devienne sinistrée.
Ces habitants qui vont arriver ne travailleront plus à Fessenheim, ils iront se projeter sur des bassins d'emploi extérieurs et donc auront de nouveaux besoins. Et tout ça, il faut le maintenir. Sinon, effectivement, c'est un territoire qui va mourir, qui se verra vidé de ses habitants parce qu'ils n'y trouveront plus leur compte.
Après l'échec de l'implantation d'une usine de voitures électriques Tesla, le maire de Fessenheim milite à présent pour accueillir un technocentre, une usine chargée de recycler les pièces métalliques issues du démantèlement.
On veut une suite industrielle sur ce site-là, portée par EDF, et qui créerait à peu près 150 emplois. Ce serait aussi un signal positif pour le territoire, pour ses habitants et pour l'avenir. Mais encore une fois, ce centre, même s'il voit le jour, ça ne sera pas avant 10 ans.
Prochaine étape pour Fessenheim, le 30 juin prochain, avec le débranchement du deuxième réacteur, un arrêt synonyme de fermeture définitive pour la centrale nucléaire. Après ça, la phase de pré-démantèlement, c'est-à-dire le déchargement du combustible, durera jusqu'à 2025. Et si pour l'heure, aucune solution immédiate de réindustrialisation n'a été trouvée, les 800 agents qui travaillent actuellement à Fessenheim seront déployés ailleurs en France par EDF.
En Allemagne, la fin du recours à l'énergie nucléaire a été décidée en 2002 déjà par la coalition des sociaux-démocrates et des Verts alors au pouvoir. Et après avoir d'abord ralenti le processus, la chancelière Angela Merkel a finalement été obligée de l'accélérer après la catastrophe de Fukushima en 2011. La sortie définitive du nucléaire est donc fixée à dans 2 ans en Allemagne. Et pour l'instant, le calendrier est respecté, Déborah Berlioz.
À ce jour, seules 6 centrales nucléaires sont encore en activité de ce côté du Rhin et la part de l'atome dans la production électrique est passée de 23 à 13% depuis 2011. Mais avec l'explosion du secteur des énergies renouvelables, 46% de l'électricité l'année dernière, l'Allemagne continue de produire plus d'électricité qu'elle n'en consomme. L'arrêt du dernier réacteur nucléaire en 2022 ne devrait donc pas poser de problème, mais l'Allemagne n'en aura pas encore fini avec l'atome, loin de là. Une fois les centrales arrêtées, il faut encore les démanteler et stocker quelques 10 000 tonnes de déchets hautement radioactifs. Or, l'Allemagne ne sait toujours pas quoi faire de ces dangereux déchets. Pourtant, le pays avait déjà un site, une ancienne mine de sel à Gorleben, au sud-est de Hambourg. Les prospections y ont commencé en 1977 et des fûts y ont déjà été stockés. Mais face à l'opposition des habitants et des associations écologiques, le projet est suspendu en 2013. Obligé de repartir à zéro, le gouvernement a créé une agence chargée de trouver un site d'enfouissement adapté. Une décision doit être prise en 2031 et le site doit entrer en service en 2050. La tâche est titanesque et nécessitera des milliards d'euros. Si l'on suit le principe pollueur-payeur, c'est aux opérateurs nucléaires de régler la facture. L'État a donc créé un fonds pour financer le stockage des déchets radioactifs et les énergéticiens y ont versé 24 milliards d'euros. Cependant, ces grandes entreprises s'estiment lésées dans l'histoire. E.ON, RWE et Vattenfall ont donc porté plainte contre l'État auprès du tribunal constitutionnel et ils ont obtenu gain de cause. L'État doit les dédommager pour la sortie accélérée du nucléaire. Le montant total des indemnisations ne pourra être déterminé qu'une fois toutes les centrales fermées, mais elles devraient s'élever à plusieurs centaines de millions d'euros. Le casse-tête est donc loin d'être terminé.
Et si on parle de plus en plus de sortie du nucléaire en Europe, un pays, lui, va en sens inverse. C'est le Royaume-Uni. Le pays a carrément décidé d'investir dans le nucléaire avec la construction d'une nouvelle centrale dans le sud-ouest du pays, dans le Somerset. Car Boris Johnson dit vouloir une renaissance nucléaire, Marie Billon.
C'est la première fois en 30 ans que le Royaume-Uni construit une nouvelle centrale nucléaire. Et le Premier ministre Boris Johnson aime beaucoup les grands projets. Officiellement, cela fait partie de la stratégie verte de son gouvernement. Le nucléaire a un faible bilan carbone et en tant que source d'énergie est plus constant que le vent ou le solaire. Et tant pis si à terme l'énergie nucléaire produit des déchets radioactifs et extrêmement polluants. Le réacteur EPR serait donc là pour prendre le relais des énergies renouvelables et il pourrait ne pas être le seul. Car Londres estime que d'ici 2050, le pays aura besoin que 38% de ses ressources énergétiques proviennent de sources indépendantes des éléments. Hinkley Point, seul, doit fournir 7% des besoins énergétiques du pays, soit environ 6 millions de foyers. Pour l'instant, le projet est chiffré à l'équivalent de 25 milliards d'euros, mais c'est dans le meilleur des cas, car le français EDF, qui construit Hinkley Point avec China General Nuclear Power Corp, doit fournir la même technologie en France, à Flamanville, sauf que le chantier combine retard et augmentation du budget. Un autre projet similaire est déjà en discussion, Sizewell C, dans le Suffolk à l'est de l'Angleterre. La technologie utilisée serait la même, on reste sur un réacteur EPR, mais ses partisans estiment qu'Hinkley Point aurait essuyé tous les pots cassés en termes de retard et de dépassement de budget. Les spécialistes notent cependant un autre obstacle, 13% des soudeurs sont des ressortissants européens. Les restrictions des conditions d'immigration annoncées avec le Brexit pourraient générer un manque de main-d'œuvre.
L'Autriche, elle, est sortie du nucléaire depuis plus de 40 ans. Depuis, les gouvernements de tous bords mènent une croisade inlassable pour que d'autres pays leur emboîtent le pas. En Europe, pas facile. La publication d'une vidéo d'un lanceur d'alerte il y a une dizaine de jours a relancé le débat sur les centrales qui entourent l'Autriche. Les inquiétudes concernent tous les réacteurs présents tout près de la frontière, notamment en Slovaquie. Les explications de Céline Béal.
C'est une vidéo montrant une explosion, un petit morceau d'une installation nucléaire qui s'envole dans les airs dans un nuage de fumée. Pour une grande partie de l'opinion, une preuve de plus. Depuis des années, on s'inquiète en Autriche de l'état de la centrale de Mochovce, dans la Slovaquie voisine. La courte vidéo qui circule dans les médias a été publiée fin février par l'ONG environnementaliste Global 2000, une référence de la lutte antinucléaire. Celle-ci explique que des courts-circuits dans leur groupe électrogène de secours pourraient empêcher, en cas de coupure de courant, que le système de refroidissement des deux réacteurs de Mochovce fonctionne correctement. C'est un ingénieur du site qui leur aurait divulgué l'enregistrement, le dernier de 8 lanceurs d'alerte qui, au cours des années, auraient fait part chacun à leur tour de leurs inquiétudes à l'organisation autrichienne. Si l'Autriche scrute d'aussi près ces développements, c'est que Mochovce est situé à moins de 100 km de sa frontière. Depuis l'accident catastrophe dans la centrale ukrainienne de Tchernobyl en 1986, un large consensus antinucléaire s'est établi dans la République alpine. Depuis, les réacteurs de fabrication soviétique, comme ceux de Mochovce, construits en 1984, sont soupçonnés d'être particulièrement dangereux. La Slovaquie, elle, dénonce une campagne de calomnie. Mais qu'ils viennent de l'Est ou de l'Ouest, les Autrichiens savent surtout une chose depuis 1986. Les nuages radioactifs ne s'arrêtent pas à leurs frontières.
Just try it. Play the record over again right now.
Et c'est l'heure de faire plaisir à nos oreilles avec vous, Vincent Théval, bonjour.
Bonjour Léa-Lisa, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous nous embarquez pour un voyage en violoncelle avec la chanteuse écossaise Isobel Campbell.
Voilà 14 ans que la chanteuse et violoncelliste écossaise Isobel Campbell n'avait pas sorti de disque en solo. Et près de 10 ans se sont écoulés depuis son dernier album enregistré en duo avec le musicien américain Mark Lanegan. Un silence particulièrement long pour celle qui a enchanté la fin des années 90 avec le groupe Belle & Sebastian, avant de poursuivre sa route sans ses camarades lors d'une décennie 2000 plutôt dense. On ne sait pas ce qu'a fait Isobel Campbell ces 10 dernières années, sinon qu'elle a déménagé à Los Angeles où ont été peaufinées les 13 chansons de son nouvel album « There is no other », très bel exercice de folk psychédélique où la voix douce de la chanteuse est enveloppée d'arrangements superbes.
Et on se quitte en musique avec Isobel Campbell. Sophie Janin était à la réalisation aujourd'hui. Pour nous écouter à toute heure et partout, rendez-vous sur notre site RFI.fr à la rubrique Accent d'Europe ou abonnez-vous à notre podcast. Excellent week-end à tous, à lundi. National Bird.